le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Sciences et Société. A-t-on le droit d'abandonner son animal de compagnie? Devrait-on interdire certaines pratiques d'abattage? L'expérimentation sur des animaux est-elle nécessaire? Quel statut faut-il conférer à l'animal pour le protéger et pour concilier les intérêts en présence? Nous poursuivons la conversation avec nos invités. Isabelle Desmellets, maître de conférence en droit privé à l'UBO et présidente du refuge animalier du pays de Landerneau. Christelle Gouanvec, maître de conférence en physiologie à l'UBO. Jean-Pierre Marguenot, professeur des universités à Limoges, membre de l'Institut de droit européen des droits de l'homme et directeur de la revue semestrielle du droit animalier. Dans le numéro précédent, nous avons demandé à nos invités de définir et de classer les animaux d'un point de vue juridique et biologique. Pour ce deuxième numéro du Lab U consacré à la souffrance et à la protection des animaux, nous nous interrogeons sur la nécessité de l'expérimentation animale et nous explorons les solutions alternatives à ces expérimentations. La parole à Christelle Gouanvec, maître de conférence en physiologie à l'UBO. Donc première chose peut-être, les enjeux. Quelles sont les recherches que vous menez et pourquoi quelles sont les recherches que vous menez et pourquoi utiliser des rats et pas des modèles numériques ou travailler sur des cellules in vivo, etc.
Alors, donc ça, on y reviendra après, je pense, à votre question suivante sur
d'abord
la législation, qui est importante, en fait. Donc, autant que possible, on va essayer d'éviter de travailler sur l'animal. Hein. Ça fait partie, en fait, de la règle d'or, ce qu'on va appeler la règle des 3 R, remplacer, raffiner, réduire. Donc, le chercheur doit remplir ces 3 conditions. Et ici, la première chose, c'est remplacer. Donc, si je peux travailler sur des cellules, les études de toxicologie, on va commencer par des cellules, je vais le faire. Malgré tout, une cellule, si elle est toute seule, isolée, je vais avoir des informations, mais elle ne va pas communiquer avec sa voisine. Alors, si j'ai des tissus, c'est plus intéressant, puisque là, je vais avoir des réponses plus importantes. Le tissu répond, on va avoir des cellules qui vont communiquer entre elles. Malgré tout, on s'arrête à ça. Hein. Actuellement, on n'a pas de possibilité plus importante pour travailler, pour tester, par exemple, des différentes molécules. Donc, quand on fait de la physiologie, on va étudier les mécanismes intégratifs, donc c'est-à-dire comment fonctionnent les organes entre eux, comment l'organisme en entier va répondre à une sollicitation. Bon, moi, c'est l'activité physique, par exemple. Et pour ça, en fait, je ne peux pas travailler uniquement sur les cellules, puisque ça ne répondra pas à ma question de recherche. Donc, je vais travailler sur l'animal entier.
Et en quelques mots, les recherches portent, quel est l'enjeu quoi, pour l'homme, enfin pour la science?
Alors, évidemment, on va chercher à... on va cibler des pathologies, par exemple. Donc,
le diabète, c'est ça, non?
Alors, dans mon cas, oui, c'est plus... donc, comment...
Oui, je parle de vos expériences.
Ouais, donc je parle de moi, du coup.
Bon, on va s'en tenir là, ouais. Vous n'allez pas prendre la responsabilité du tout de la...
Donc là, en fait, je travaille plutôt sur comment l'activité physique va permettre de rétablir ou d'empêcher de voir l'apparition d'un diabète de type 2. Alors, je rentre pas dans le détail, parce que c'est pas exactement le diabète de type 2, mais là, je vais perdre tout le monde. Donc ici, c'est vraiment des enjeux intéressants, puisque l'activité physique, c'est un moyen gratuit d'empêcher justement l'installation de ce type de pathologie qui coûte très cher à la sécurité sociale aujourd'hui. Voilà, et la sédentarité chez l'enfant, l'adolescent, elle est de plus en plus importante, et ce diabète de type 2 se développe maintenant chez l'enfant et l'adolescent, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, et en France aussi.
Vous faites courir des rats pour voir de quelle manière l'activité physique réduit ou augmente ou soigne.
Donc précisément, on va tester différentes modalités d'entraînement. Donc on va tester différents paramètres, savoir combien de temps il faut courir, à quelle fréquence, quelle intensité. Aujourd'hui, on sait qu'en augmentant l'intensité, on peut justement avoir des effets assez intéressants au niveau cardiovasculaire. Donc on teste tout ça, les différents protocoles et ceux qui seraient les plus intéressants justement pour... essayer de réduire l'apparition de cette pathologie.
Bien, alors maintenant, on est dans le laboratoire, on voit un peu quel est l'enjeu, ce qu'on fait. Revenons sur l'animal qui peut souffrir ou qui souffre, ou qui, bon, justement la question, comment vous faites pour réduire au maximum le stress du rat là, qui est en face de vous et qui a autre chose à faire aussi peut-être? Et comment, quelles sont les précautions infinies? L'autre jour, j'étais à l'animalerie, j'ai vu les précautions infinies que prennent, en tout cas qui sont prises par vous, ici à Brest, c'est sûr, des scientifiques de Brest pour utiliser un animal à des fins de recherche. Ça vaut la peine peut-être d'aller un peu dans le détail là.
Alors, du coup, je vais encore parler de mon expérience en vous donnant un petit exemple. Et puis, on passera plus au cadre législatif, parce que je pense qu'il est vraiment important de bien expliquer comment ça se passe pour un chercheur, puisqu'on n'a pas les animaux comme ça. Hein, c'est pas un... Voilà, il y a des procédures, il y a beaucoup de choses à mettre en place, et la législation est très, très stricte. Donc, ça sera après. Donc je vais vous donner un exemple. Quand vous allez chez le médecin pour mesurer votre pression artérielle, on vous met un petit brassard, on vous dit ne bougez plus, levez un peu le bras, voilà, donc pour mesurer votre pression artérielle. Donc il faut être au calme, etc. Donc je fais la même chose sur mes animaux, donc c'est une méthode qui est non invasive ici, mais il faut que j'installe le brassard à la queue du rat pour faire cette mesure. Et pour ça, il faut mettre le rat dans un tube de contention. Et je vais donc apprendre au rat pendant une semaine, tous les jours, tout doucement, à le faire rentrer dans le tube de contention pour pouvoir lui installer le petit brassard et l'appareil de mesure. Et donc ça, c'est un apprentissage. Ça veut dire que je vais le manipuler tous les jours, moi ou les gens qui travaillent avec moi. Donc forcément, il y a un lien qui se met en place. Et il va apprendre dans ce tube à être très calme, parce que forcément, là aussi, ça n'a aucun intérêt. Si mon rat est stressé, que je ne maîtrise pas du coup cet animal-là, je n'aurai pas une bonne pression artérielle. Hein. Donc aucun intérêt scientifique. Donc ça veut dire qu'il faut aussi prendre soin de son animal. Et si c'est un animal très intelligent et comprend quand même ce qu'on lui demande aussi en général. Donc là, c'est un vrai apprentissage et... Donc, je vais mettre en place, donc, tous les jours, je vais augmenter jusqu'à la fin, le dernier jour où je vais faire toutes mes mesures, je vais m'assurer que je peux faire cette mesure et qu'elle sera scientifiquement valable. Donc là, ce n'est pas invasif, hein, donc ce n'est pas très compliqué, c'est juste un apprentissage, mais ça prend du temps. Donc voilà.
Et le cadre légal, parce qu'on ne rentre pas dans un laboratoire comme ça, il y a des formations, il y a des textes, il y a des précautions. Est-ce qu'on peut en dire un mot?
Je vais essayer d'être assez...
Sinon, on a quelqu'un qui peut nous aider.
Assez hein. rapide, et puis on finira peut-être avec Madame Loisel ici. Alors, en gros, le chercheur, il ne s'improvise pas non plus. Il ne va pas faire d'expérimentation animale comme ça. Il va réfléchir à son projet, choisir le bon modèle aussi qui va bien répondre à sa question de recherche. Et il y en a plein des modèles. Et donc pour ça, il faut avoir pensé avant. Et donc au niveau législatif, le chercheur doit avoir une formation en expérimentation animale qui est obligatoire. Donc le concepteur, c'est le niveau le plus élevé, il est capable d'écrire le projet. Le praticien, lui, on va dire que c'est plus le technicien de laboratoire, si j'essaie de faire un petit peu le parallèle. Il va travailler sur les animaux, mais ce n'est pas lui qui écrit la demande d'autorisation de projet. Et puis le soigneur, qui va s'occuper au quotidien des animaux, qui n'aura pas le droit de tout faire, qui n'a pas le droit d'écrire le projet, par exemple. Et s'il doit intervenir, il doit en référer au concepteur. Donc là, il y a une formation. On ne peut pas donc du coup travailler sur les animaux sans cette formation. On peut aussi avoir une formation en chirurgie pour aller un peu plus loin suivant les procédures qu'on met en place. Il faut avoir cette formation, sinon on n'a pas le droit de faire des points de suture par exemple. Je résume rapidement, c'est presque ça. Donc on doit être formé. Ensuite le chercheur va devoir remplir ce que j'appelle une demande d'autorisation de projet. Et dans cette demande d'autorisation de projet, qu'on va télécharger sur la plateforme du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, je vais essayer de ne pas l'oublier, ce formulaire, on a 4 grandes parties à remplir. Toutes sont importantes, bien sûr. Je vais plus m'attarder sur la 4e partie pour essayer d'aller assez vite. La 4e partie, le chercheur doit décrire toutes ses procédures. Et dedans, il doit expliquer aussi comment il va prendre soin de l'animal. Il va mettre en place une table de suivi de soins. Par jour, il va mettre tous les critères de comportement, la variation de poids qui peut intervenir, et il va scorer tous ces critères pour évaluer l'état, le bien-être de son animal, suivant sa procédure. Dans sa procédure, il doit aller jusqu'à définir la taille de l'aiguille qu'il va utiliser pour injecter sa molécule, par exemple. Donc c'est hyper détaillé. Et donc, il doit suivre son animal aussi. Et donc, ça, c'est aussi le week-end et les jours fériés. Une fois que la procédure est lancée, on suit son animal tous les jours, tout le temps.
Il y a aussi un comité d'éthique, je crois.
Donc, du coup, parce qu'avant d'arriver au comité d'éthique, donc le projet doit être soumis sur cette plateforme. Et le ministère va donc ça, c'est un fichier qui va être crypté. Je repars juste sur la deuxième partie qui est un résumé non technique qui doit être en fait c'est quelque chose d'assez général qui doit être lisible par le grand public et qui est accessible sur le site du ministère, donc n'importe qui peut aller lire tout ce que les chercheurs font dans ce résumé non technique. Bon, c'est anonymé par contre. Donc voilà. Et donc, quand le chercheur a soumis son formulaire, le ministère redescend, donc crypte ce dossier et va le redescendre à un comité d'éthique. Dans ce comité d'éthique, il y a donc des gens qui vont analyser ce dossier. Je vais peut-être laisser, si ça ne t'embête pas, juste puisque Madame Loisel ici est présidente du comité d'éthique finistérien. Du coup, elle va pouvoir peut-être essayer de résumer plus vite que moi. Et là, c'est un cas concret. Hein.
Donc, faut te présenter. Là. Donc,
Bonjour, donc Séverine Loisel. Donc, effectivement, je préside le comité éthique finistérien qui est créé.
Et vous êtes responsable de l'animalerie.
Voilà. Alors, je coordonne toutes les activités liées à l'expérimentation animale à l'UBO depuis 2010. Ce que Christelle ne vous a pas dit, depuis en fait le 1er février 2013, il y a une nouvelle réglementation qui s'applique en France, donc qui a été votée au Parlement en 2010, qui a mis 2 ans à être transposée en droit français et qui donc s'applique depuis le 1er février 2013. Donc effectivement, le chercheur va rédiger sa DAB. C'est moi qui soumets en fait l'intégralité des projets pour le président de l'université, puisque c'est le président qui est responsable juridique au niveau de l'établissement. Et ce document crypté redescend dans le comité éthique. Donc le comité éthique est composé de différentes catégories de personnes. Donc on va avoir effectivement des chercheurs, mais on va avoir également des soigneurs, des techniciens, des gens qui travaillent au quotidien avec les animaux et qui donc connaissent bien les animaux au quotidien. On va avoir également des juristes. On va avoir ce qu'on appelle, nous, des naïfs. C'est des gens qui ne font pas d'expérimentation animale et qui, donc, ont un regard complètement différent d'une autre. Et c'est toujours très intéressant parce qu'on a vraiment des discussions très, très intéressantes entre nous. Et on a également donc recruté, il n'y a pas très longtemps, une statisticienne, puisque c'est important pour nous aussi au niveau des tests statistiques. Et comme Christelle l'évoquait tout à l'heure, on a le R réduit. On essaie de réduire au maximum le nombre d'animaux tout en maintenant les objectifs de projet et surtout sans que ça ait un impact statistique sur nos recherches. Donc le document, je le décrypte et on le soumet. Donc on est 14 dans le comité éthique et tout le monde a accès au dossier, tout le monde fait des commentaires. Donc je fais une synthèse des commentaires des chercheurs et ensuite on envoie aux chercheurs les commentaires du comité d'éthique. Donc le chercheur, après, s'il est réactif, fait sa correction. Et ensuite, on rentre dans des cycles jusqu'à ce que tous les membres du comité éthique aient validé favorablement la demande. À partir de là, le comité éthique émet son avis favorable. Ça remonte au ministère. Le ministère relit le document. Voilà, parce que ben on s'améliore, hein. Donc on vient de plus en plus affin sur les lectures en fait des documents. Et suite à ça, le chercheur reçoit une notification. Donc cette notification l'autorise pour le sujet sur lequel il a demandé de travailler, l'espèce, les personnes sont déclarées. Donc c'est-à-dire que si un jour il a quelqu'un d'autre qui veut travailler sur le projet, il ne pourra pas intégrer la personne, il faudra faire une déclaration avant. Et puis pour la durée, donc au départ ils nous déposaient tous des dossiers pour 5 ans, et puis maintenant on revient, on va dire, sur des 1 an ou 2 ans parce que bah, les résultats évoluent et puis on n'a pas forcément les résultats qu'on pensait. Donc voilà, on réfléchit constamment sur nos procédures. Donc voilà. Et donc le comité éthique regroupe 10 établissements d'expérimentation animale et on a même un établissement qui vient du Nord-Pas-de-Calais puisqu'on a une double composante, on est rongeur et également poisson.
D'accord. Voilà. Moi, je vais me tourner vers vous deux peut-être. Peut-être petit commentaire sur cette description par donc Séverine Noisel qui dirige l'animalerie et... Christelle Gouanvec qui mène des expériences avec les précautions. Là. Peut-être des commentaires sur les précautions sur,
Cette description du parcours m'a vivement intéressé, mais me laisse sur une objection sur laquelle j'ai travaillé depuis déjà pas mal de temps, pas mal d'années, et notamment sur la directive de 2010 et le décalage entre la directive de 2010 et sa transcription en droit français par le décret du 1er février 2013 fait apparaître un certain nombre de décalages, notamment quant à l'impartialité des comités d'éthique. Vous avez parlé des naïfs, c'est-à-dire que les abrutis, ceux qui connaissent rien. Bon. Et la composition des comités d'éthique à la française fait problème. Parce que c'était composé trop majoritairement de sachants déjà habitués à l'idée de la légitimité de l'expérimentation animale. Et ça ne va pas. Et ça, il va y avoir sans doute une modification de la directive de 2010. Il y a beaucoup d'associations de protection des animaux et d'autres qui considèrent qu'il y a lieu de reprendre ça de manière plus rigoureuse avec un moindre décalage entre la directive et la transposition du décret. Il y a aussi d'autres points qui font problème pour le juriste, c'est que dans le préambule de la directive de 2010, il est précisé, je le disais peut-être un peu long, mais je crois que tout est là, s'il est souhaitable de remplacer l'utilisation d'animaux vivants dans les procédures par d'autres méthodes qui n'impliquent pas leur utilisation, l'utilisation d'animaux vivants demeure nécessaire pour protéger la santé humaine et animale, ainsi que l'environnement. Cependant, la présente directive représente une étape importante vers la réalisation de l'objectif final que constitue le remplacement total des procédures appliquées à des animaux vivants à des fins scientifiques et éducatives dès que ce sera possible sur un plan scientifique. À cette fin, elle cherche à faciliter et à promouvoir les progrès dans la mise au point d'approches alternatives. Et une des difficultés, c'est l'entrain qui est mis par les responsables, les décideurs, à la mise en place des méthodes alternatives. Une question est celle de savoir quelle est la part de financement réellement affectée à la mise au point de méthodes alternatives. Et ça, c'est vraiment un problème dont la société civile va s'emparer dans son ensemble sans tarder.
Réaction ? Ou alors on passe à la troisième partie, c'est une belle transition. Micro, parce que c'est... Alors, soit celui-là, soit là-bas.
Il
Je n'ai plus en tête les noms, mais aujourd'hui, il y a plusieurs groupes de travail qui, effectivement, essaient de trouver des méthodes alternatives à l'expérimentation animale. Alors, c'est vrai, hein, que je partage votre avis sur l'histoire des moyens, hein, parce qu'on est tous d'accord, hein, on nous a pondu aussi cette directive, et on n'a pas mis les moyens en face, justement, aussi, pour accompagner les chercheurs. Hein. Là, nous, on partage totalement votre positionnement. Après, voilà, c'est vrai que au niveau français, moi, je trouve qu'il y a une prise de conscience actuellement au niveau de l'expérimentation animale, au niveau de la communication et au niveau de la communication des chercheurs, puisque bon, moi je le sais parce que je suis dans pas mal d'instances, donc je sais qu'il y a des projets, des programmes sur les méthodes alternatives, mais effectivement je trouve que c'est pas assez communiqué au niveau français. J'ai intégré deux groupes, un groupe de pilotage, on en reparlera après parce que Christelle a dit tout le monde fait des formations. Aujourd'hui, les chercheurs, non seulement avec ces formations spécifiques, doivent justifier de 21 heures de formation de maintien de compétences tous les 6 ans. Nous ici, on est très strict à l'UBO, donc je suis un petit peu l'empêcheuse de tourner en rond pour les chercheurs. Si les gens ne justifient pas de leur maintien de compétences, moi je les bloque. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus accès à l'animalerie, ils ne peuvent plus être responsables de projet. Donc moi, là-dessus, je bloque sur pas mal de choses. Et au niveau, justement, structure à bien-être animal, on en parlera après, on a tout un accompagnement des chercheurs parce que, entre guillemets, on a des éducations à revoir ou des comportements à revoir. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'il y a des choses qui bougent. Au niveau du comité éthique, alors certes, on va dire que c'est peut-être pas moite-moite au niveau des naïfs, mais certains qui bossent sur les rongeurs sont des naïfs sur tout ce qui touche les poissons. Ceux qui sont les poissons sont naïfs sur nos procédures de rongeurs. Donc on n'a pas du tout les mêmes questionnements. On a notre statisticienne qui, elle, ne fait pas du tout d'expé animal. Donc elle, c'est un naïf. C'est pas du tout péjoratif, hein, quand on parle de naïf. Nous, on aime beaucoup parce que bah, des fois, on a un peu la tête dans le guidon.
Pour le folklore.
Voilà. Pardon ?
Pour le folklore.
Non, c'est pas pour le folklore, parce qu'on a des fois des remarques très pertinentes qui nous amènent à nous remettre en question ou à réexpliquer les choses parce qu'on les a peut-être pas forcément bien expliquées. Essayer de faire comprendre aussi. Voilà. Donc, nous, on prend le comité éthique très au sérieux. On a des discussions des fois très, très animées. Voilà. Mais c'est vraiment du temps d'échange. Et c'est-à-dire que l'avis de tout le monde est pris en compte. C'est pour ça que nous, dans notre comité, on ne fonctionne pas par un système de rapporteurs comme fonctionnent beaucoup de comités en France. C'est-à-dire que la totalité des membres ont un droit d'expression et ont droit de poser des questions sur les projets des chercheurs.
Voilà. Mais votre comité ne serait-il pas exemplaire ?
Je ne sais pas si on est... Non, je ne sais pas si on est exemplaire. Là, aujourd'hui, il y a une réflexion au niveau national. Là, du coup, je viens d'être nommée. Je suis la référente au niveau des établissements, au niveau public sur la région Bretagne, justement parce qu'on est tous en train de travailler entre tous les comités d'éthique pour uniformiser aussi les méthodes de travail et faire évoluer les choses dans le bon sens et dans le droit de l'animal. Enfin, voilà.
Si je puis me permettre, dans la composition du comité d'éthique, il n'y a pas d'association de protection animale.
Alors, si ça vous intéresse, nous, on est preneurs.
D'accord. Donc,
voilà. Alors, par contre,
il y a un vétérinaire.
Voilà, on a un vétérinaire. Oui, j'ai oublié de le préciser. Et par contre, voilà, faut être moteur parce que moi, je suis très exigeante. Des gens qui viennent dans le comité éthique pour avoir sur leur CV membre du comité éthique et qui relisent pas les dossiers, qui sont pas réactifs, qui sont pas partie prenante. Moi, là-dessus,
voilà. Ça sera pas le cas, là.
Voilà. Donc, du coup, moi, nous, on est toujours demandeurs de gens qui sont vraiment motivés et qui veulent vraiment participer justement sur la lecture de ces dossiers. Voilà. Après, il y a un accord de confidentialité. Nous, on est impartial, c'est-à-dire si quelqu'un est partie prenante dans un projet, il est extrait des évaluations. Par exemple, moi, quand je soumets mes projets, c'est Christelle qui prend le relais. Quand je reçois les commentaires, je ne sais pas qui dans le comité éthique a posé le commentaire.
À charge de revanche.
Non, ce n'est pas à charge de revanche. Non, non.
Il y a un risque.
Non, parce
dans
que
dans des comités d'éthique qui seraient moins exemplaires.
Ah, Ça, je ne sais pas. Mais de toute façon, tous les membres du comité éthique signent une charte d'engagement. Et tous ces documents sont transmis au ministère. Donc il y a vraiment une charte d'impartialité. Il y a toute une règle, des règles à suivre quand on fait partie du comité éthique. Voilà. Et moi, je ne prends pas ça du tout à la légère.
Les questions du public.
Bonjour. À propos de deuxième chance, je voulais revenir sur les animaux d'expérimentation et vous demander en fait ce que vous en pensiez. J'ai posé la question ce matin lors du colloque. On parle beaucoup, et c'est une très bonne chose, de réhabilitation après des procédures légères sur des expérimentations animales. Je voulais avoir en fait votre ressenti à toutes les deux, savoir si ce sont des choses en fait qui sont mises en place pour vous et ce que vous penseriez éventuellement d'introduire ce quatrième R de réhabilitation qui viendrait en plus de la règle des trois R sur justement en fait la couverture de l'expérimentation animale.
Alors du coup normalement c'est dans la législation, ça si je me trompe pas, on peut des animaux témoins qui finalement n'ont rien eu peuvent être alors comment on dit, je suis pas juriste. peuvent être placés, ouais, je crois que c'est ça hein, dans la législation. Donc voilà.
Micro.
Ouais. Enfin, on peut pas faire voilà, on peut pas le faire n'importe comment.
On peut pas placer n'importe comment un animal. Il faut que on ait vraiment la garantie que du coup l'animal aussi soit placé dans de bonnes conditions. Voilà, moi je vais vous dire, j'ai déjà eu des demandes très farfelues. On me demandait des souris, soi-disant pour des placements, alors que c'était pour nourrir des serpents.
C'est hein ça.
Voilà. Il y a des gros problèmes, des gros programmes de placement. Généralement, c'est, on va dire, sur plutôt l'animal de compagnie, hein, le chien, le chat, et notamment sur les chiens qui servent en expérimentation animale, mais plutôt sur le versant expérimentation animale côté vétérinaire, notamment sur les chiennes gestantes avec un impact d'une alimentation. Donc après, les petits issus de ces portées-là peuvent être placés. Il y a une association, alors ça y est, j'ai plus le nom en tête, Alzheimer me guette. Le Graal, voilà, qui travaille beaucoup avec les gros laboratoires pharmaceutiques privés et qui fait le lien, donc qui récupère en fait les chiens ou les chats et qui ensuite va s'occuper de placer les animaux. Alors, nous, au niveau de l'université, c'est difficile parce qu'après, on a des thématiques un peu particulière. Alors, notamment moi, je travaille beaucoup sur le développement de nouveaux médicaments, notamment dans le domaine de la cancéro.
Donc, oui, je ne peux pas aller. Des animaux qui ne pourraient pas après, effectivement.
Voilà,
avoir
je
ne
peux
vie
pas
normale.
Aller placer un animal qui, malheureusement, a développé une pathologie humaine et qui peut présenter un risque pour l'homme et l'environnement.
Aussi.
Voilà. Après, on teste de nouveaux médicaments. Alors, malheureusement, hein, c'est, comme disait Christelle, les gens qui ne font pas d'expo animal ont un peu de mal, des fois, à nous comprendre. Voilà. Moi, j'aime les animaux sur lesquels je travaille. Après, il faut que j'ai du recul parce que je suis dans un domaine particulier. Moi, j'ai travaillé 9 ans dans un service de cancéro. J'ai vu des réussites et j'ai vu aussi des échecs. Et en fait, je sais que si je travaille aujourd'hui et je fais appel à l'expé animal, c'est pour essayer de trouver des alternatives pour les gens pour qui aujourd'hui, il n'existe pas de thérapeutique. Donc, malheureusement, l'issue... je ne peux pas laisser ma souris en vie parce que si je soigne d'un côté, après moi j'ai toutes des analyses derrière pour voir si je n'ai pas été faire un défaut sur un autre tissu ou un autre organe. Alors, je ne vous dis pas, ça m'est déjà arrivé. Quand j'ai des... Alors, avant, on pouvait avoir des stagiaires de troisième. Moi, j'adorais parce que ça immergeait, entre guillemets, les zones jades d'eau. Et ils se rendaient compte, finalement, de tout l'environnement et de ce qu'on fait au quotidien avec les animaux. Malheureusement, aujourd'hui, la réglementation nous interdit de pouvoir faire toucher des animaux à des gens qui n'ont pas les formations. Voilà, je ne peux pas, ce n'est pas que je ne veux pas, hein, moi j'aimerais, mais je ne peux plus aujourd'hui. C'est-à-dire que l'inspecteur vétérinaire départemental m'impose que toutes les gens et les personnes que je reçois qui veulent juste attraper une souris hein, aient une formation en expérimentation animale. Alors avant ça, ça m'est déjà arrivé d'avoir un super stagiaire et puis de voir qu'il adorait et tout, et de donner un rat, de donner une souris, parce que je sais qu'il allait être bien dans la famille, mais avec l'accord en fait des parents. Et on venait avec la petite cage, les petits tunnels et tout, parce que je savais que ben moi je préférais voir l'animal heureux pendant, parce qu'une souris ça a une durée de vie d'à peu près 2 ans. 2 ans heureux, voilà, c'est rigolo de les voir aussi s'amuser, plutôt que ben de le mettre à mort. Voilà. mais au niveau national, il y a vraiment une réflexion sur le placement. Mmh. Voilà. Après, bah, on a des contraintes, parce que je ne peux pas les donner comme ça à n'importe qui. Après, moi, je ne connais pas les gens, je ne sais pas où est-ce que l'animal va aller, est-ce qu'il va être bien soigné, et est-ce qu'il ne va pas être servi à autre chose.
Oui, parce qu'en théorie, de toute façon, le placement de ces animaux éventuellement récupérables, s'ils n'ont pas trop souffert lors des procédures ou pas tout souffert, doivent se faire théoriquement par le biais d'une association, si voilà, j'ai bien compris les choses. Voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de couverture associative.
Bah, sur, les rongeurs, à...
sur les rongeurs, je ne pense pas.
Sur les chiens-chats, oui. Ça c'est clair. Aujourd'hui, il y a des associations.
Ah oui, sur les petits rongeurs, a priori, au niveau associatif, je connais clair que
Wildcat
qui prend le relais en fait, du Graal, justement.
Alors là, je vais répondre scientifiquement.
Oui.
Ouais. Alors, je vais parler pour la réhabilitation, plutôt les gros animaux, ce qu'on a dit, chats et chiens. Après, c'est vrai que sur les rongeurs, on a le principe de réduction qui fait que dans nos lots d'animaux, c'est vrai qu'on réduit au maximum le nombre d'animaux qu'on va utiliser. C'est-à-dire que souvent, de toute façon, on n'a pas à donner après, quoi. Et sur les animaux témoins qui n'ont rien, on fait aussi des prélèvements pour vérifier que, effectivement, notre protocole est efficace. Donc, en fait, voilà. Et on est toujours sur le principe de réduction. Donc, on utilise le moins d'animaux possible.
Mais voilà, moi, ça
serait l'idéal. J'ai déjà ramené des souris chez moi, quand même. Ouais.
Merci à Christelle Gouanvec, maître de conférence en physiologie à l'UBO. À Isabelle Desmellet, maître de conférence en droit privé et présidente du refuge animalier du pays de Landerneau. À Jean-Pierre Marguenot, professeur des universités à Limoges et directeur de la revue semestrielle du droit animalier. Et merci à Séverine Loisel, directrice du service général des plateformes technologiques de l'UBO, présente dans le public. Nous les retrouverons dans le prochain numéro du Lab U. Dans cette dernière émission consacrée à la souffrance et aux droits des animaux, nous explorerons plus particulièrement les avancées du droit en matière de protection animale et l'évolution des protocoles expérimentaux en sciences. À suivre dans le prochain numéro du Lab U. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur la page des bibliothèques universitaires de l'UBO.